Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, on s'intéresse à l'entrée dans la vie sexuelle, 17 ans en moyenne, selon l'Institut National des Études Démographiques. Mais comment se passent ces premières expériences en 2022? Quelle est l'influence de la pornographie, des réseaux sociaux, des applis de rencontres, du culte de la performance de nos sociétés, de l'injonction à se réaliser à travers la sexualité? Quid des premières fois à l'heure où la question du consentement bouleverse les rapports hommes-femmes? Les interrogations en matière d'entrée dans la sexualité sont vastes et complexes, qu'il s'agisse d'orientation sexuelle, de complexes physiques ou de la peur de rester vierge. Nous aborderons toutes ces questions, parfois difficiles à poser en raison de la honte, de la peur ou des tabous familiaux. Rappelons que les premières expériences sont fondamentales et qu'elles peuvent avoir un impact sur la suite de la vie sexuelle. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et si vous êtes plus âgé, racontez-nous la trace laissée par ces premiers rapports dans votre vie érotico-sentimentale. 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Quel est le menu de votre chronique Ma vie de parent?
Oh ben je vais rebondir sur le sujet et parler de la sexualité de nos ados avec une détente absolue.
Ah ben oui, je sens ça. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Pourquoi tu me sautes dessus comme ça? Qu'est-ce que t'as là avec ton slip? T'as un problème ou quoi?
Mais quoi?
Pourquoi tu mets tes mains comme ça?
C'est bon. Bon, c'est bon, j'ai compris, je suis moche, j'ai un gros pif, j'ai des boutons, je suis boiteux, tu peux me le dire que je te déboute.
T'es bête, c'est pas une question d'être beau ou quoi, c'est juste qu'on saute pas sur les filles comme ça. Tu sais, il y a deux ou trois détails qui trompent pas quand tu sais qu'il y a une fille qui veut sortir avec toi. Vous êtes pas capable de les voir, c'est pour ça que vous êtes tout seul aussi.
Mais si, c'est genre quand elle fait des petits glapissements.
Mais non. Déjà, quand une fille te regarde en se recoiffant comme ça, ça veut dire que tu lui plais. Et après, tu vois le truc noir au fond de l'œil? Bah quand il est super ouvert, ça veut dire que la fille, elle fait vers genre le sexe, tu vois.
Extrait des beaux gosses de Riyad Satouf. Bonjour Olivia Benhamou.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute et sexologue au service universitaire de médecine préventive de l'université de Rouen et vous exercez également en cabinet libéral et vous venez de publier au Cherche Midi un petit guide d'entrée dans la vie sexuelle très réussi avec des illustrations de Cathy Carcenti.
Merci.
Bonjour Joël Mignot.
Bonjour.
Vous êtes
Ali.
Psychologue clinicienne spécialisée en sexologie, en thérapie de couple. Vous dirigez notamment le DIU de sexologie à l'université Paris Diderot. Vous faites partie de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains et vous êtes la rédactrice en chef de la revue Sexualité humaine avec en ce moment un dossier consacré aux sexualités connectées. Bonjour David Groison.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, directeur des publics de plus de 12 ans chez Bayard Presse et rédacteur en chef de l'excellent mensuel Phosphore. Alors, selon Santé publique France, l'âge moyen du premier rapport c'est 17 ans, 17 ans et demi pour les filles, 17 ans pour les garçons. Cet âge moyen du premier rapport peut-il entraîner un complexe chez ceux qui ne l'ont pas encore fait, Joël Mignot?
Oui, on s'en rend compte souvent dans ce que nous disent nos patients lorsqu'ils viennent pour des problématiques sexuelles, qu'ils parlent de leur première fois et qu'elle est tardive. Et souvent, ils disent, bah, finalement, moi, ma première fois, c'était plutôt vers 22, 23, 24, 30 ans. Et là, on sent qu'ils portent ça comme un poids parce que, effectivement, dans l'imaginaire collectif, la sexualité doit commencer à peu près à l'adolescence, au début de l'âge adulte. Donc, effectivement, ça marque beaucoup, beaucoup d'adultes plus tard dans leur sexualité.
Joël Mignot. Pardon, Olivia Benhamou.
Ce que je constate, c'est que les jeunes, les étudiants que je rencontre, eux ont plutôt l'idée que l'âge du premier rapport sexuel est antérieur. C'est-à-dire que quand je leur rappelle cette statistique, ils sont souvent étonnés et ils estiment que finalement, le premier rapport sexuel devrait avoir lieu dès 13-14 ans, en fait. C'est plutôt ça, l'idée reçue qu'ont les jeunes aujourd'hui, en fait. Et ça leur met d'autant plus la pression. Alors après, effectivement, quand on discute, on s'aperçoit qu'il y a toute une variété de moments d'entrée dans la vie sexuelle et que l'âge est vraiment un critère secondaire. En tout cas, ce serait bien qu'ils puissent s'en défaire.
Mais tout de même, Olivia Benhamou, la peur de rester encore vierge, oui, au-delà de 19, 20, 21 ans, cela peut devenir un complexe assez lourd, oui, pour certains jeunes.
Beaucoup de jeunes garçons disent qu'ils ont peur de mourir puceau. Ouais. Et la première fois que...
C'est une vraie frayeur.
Ah, c'est véritable, véridique. Ça fait partie des inquiétudes que j'entends très régulièrement. Avec l'idée de pas être un partenaire suffisamment satisfaisant, un partenaire suffisamment séduisant. c'est beaucoup chez les garçons qui sont effectivement très inquiets quand ils se comparent au modèle pornographique d'une part, mais qui également imaginent que leur partenaire, fille ou garçon, aurait des attentes extraordinaires en termes de performance, comme si on les attendait, vous savez, comme à pouvoir faire des prouesses, comme enchaîner des figures
acrobatiques
dans un concours de gymnastique. Ouais. Et j'ai beaucoup de témoignages de jeunes qui m'explique par exemple qu'il se chronomètre en se masturbant pour voir combien de temps ils vont pouvoir rester en érection avant d'éjaculer, qu'ils vont quantifier la quantité de sperme qu'ils éjaculent, avec vraiment des inquiétudes et des croyances en fait, des idées reçues quant à la nature en fait du rapport sexuel. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport sexuel? Qu'est-ce qui va se jouer dans la rencontre avec quelqu'un? Donc tout ça est très douloureux et angoissant.
Joël Mignot, sur ce culte de la performance.
Oui, alors dans le rapport sexuel, il y a rapport. C'est important aussi pour ces jeunes de leur expliquer que leur sexualité, elle a commencé avant le premier rapport, que déjà ce sont des êtres sexués qui ont vécu eux aussi une sexualité souvent auto-érotique, ils ont pu découvrir leur corps, donc tout ça c'est aussi notre travail de leur expliquer que leur sexualité elle est vivante et que cette évolution les amène un jour à avoir une relation dans le rapport avec quelqu'un, avec un autre, et que c'est cet autre qui va faire que la sexualité va pouvoir se développer et évoluer, dans le meilleur des cas, évidemment, sur le plan positif. Pour d'autres, eh bien, ce sera moins positif.
Le regard de David Groison.
Bah, j'aime bien ce que vous dites, Joël Mignot, parce que de quelle première fois on parle, en fait? Est-ce que c'est la première fois que le cœur palpite? Est-ce que c'est le premier baiser? C'est les premières caresses? Et cet âge médian qui bouge pas beaucoup, 17 ans, c'est le même depuis 20 ans, 30 ans, ce qui a bougé, c'est que les filles ont maintenant le même âge que les garçons. Mais en fait, c'est la première fois qu'il y a une pénétration. Or, ce qu'on vit, c'est que il faut pas réduire la sexualité, évidemment, à ce seul acte-là. Et si on arrive à détendre un peu autour de cette question-là, bah, évidemment, ça va mieux se passer. On va mieux se comprendre et comprendre l'autre.
Alors, l'âge du premier rapport sexuel pose la question de la normalité. Existe-t-il d'ailleurs, Olivia Benhamou, une norme sexuelle? Il est naturel de se comparer à une norme pour pouvoir se repérer dans le groupe d'appartenance. Et d'ailleurs, la sexothérapeute Émilie Nagoski dit ceci: nous sommes tous pareils, différents, tous normaux.
Exactement. J'aime bien cette phrase parce que effectivement, ça fait partie des interrogations qui reviennent tout le temps. J'ai tel fantasme, j'ai tel type d'angoisse, j'ai, je sais pas, la taille de mes petites lèvres et comme ci ou comme ça. Enfin, est-ce que je suis normale? C'est une question qui revient tout le temps et d'ailleurs pas seulement chez les jeunes adultes en fait. Hein, en cabinet, des patients de tous les âges se posent cette question et on se l'est tous posé, je pense, à différents moments de notre vie. Donc elle est légitime, mais je dirais que la seule norme, c'est celle qu'on a pour soi-même en vérité, et que ça fait effectivement partie du travail, comme disait Joël, de déconstruire un petit peu toutes ces représentations qui sont des fardeaux en vérité, et je pense que de manière générale l'entrée dans la vie sexuelle et affective nécessite de mettre à jour pour soi-même une sorte de boussole qui nous permettrait de nous orienter dans la vie, et qui commence par bien se connaître en fait. De quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui va susciter mon intérêt, et de plutôt s'interroger sur soi-même, sur ce qui nous anime et sur ce qui fait que je vais considérer que ce ou cette partenaire, c'est vraiment cette personne-là avec qui j'ai envie de vivre une expérience d'abord amoureuse et intime, surtout parce qu'il s'agit d'intimité émotionnelle, et quelque chose qui va conduire tout naturellement à l'envie d'avoir un rapport sexuel et qui ne consiste pas, je vous rejoins, uniquement dans la pénétration. Voilà, donc d'abord des contacts, de l'envie de se rapprocher, de découvrir la sensualité. Et donc, il n'y a pas. Enfin, la question de la norme est complètement étrangère à tout ça, finalement.
Joël Mignot.
Oui, et puis il y a la question de l'émotion aussi. C'est-à-dire que rencontrer l'autre, c'est aussi être dans un état émotionnel fort qui va faire bouger aussi les lignes à l'intérieur de soi. Il y a aussi la question de la mise en mots, parce qu'on s'aperçoit, lorsqu'on écoute les patients, ils nous disent, dans ma famille, on n'en parlait pas. Alors qu'aujourd'hui, en 2022, on pourrait se dire que finalement, cette parole, elle circule un peu plus dans les familles. Et non, on n'en parle pas. Alors, il faut, c'est vrai aussi que c'est peut-être pas le lieu d'ailleurs où on doit en parler beaucoup, mais au moins accueillir la parole des jeunes. Et ça, c'est une vraie difficulté.
David Croizon.
Oui, et à l'éducation nationale, à l'école, au collège, au lycée, on n'en parle pas non plus. On est censé faire 3 séances annuelles autour de ces questions-là. Et en général, elles sont pas faites. Donc, du coup, on le fait une fois et on l'aborde que sur le thème du risque, les risques de maladies sexuellement transmissibles, les risques de VIH, de grossesse non désirée. Et on n'aborde pas tous les aspects que vous dites, c'est-à-dire effectivement le sentiment, l'engagement affectif, la découverte de son propre plaisir, du plaisir de l'autre, du désir. Et c'est dommage effectivement parce que du coup il reste le modèle de la pornographie et du bouche à oreille des copains.
Gonelle Boulet.
Oui, et puis c'est vrai et c'était déjà le cas, moi je me souviens à ma génération où c'était les années SIDA. Donc il y avait cette idée du risque qui est montée en puissance. Et je me souviens qu'il y avait c'était décorrélé sexualité et affectivité. Et je me souviens, moi, qu'on était au lycée et déjà on nous parlait que sexualité. Mmh. Alors qu'on avait besoin aussi de lieux pour parler affectivité dans son ensemble. Et je trouve que ce qui a été un petit peu dommage, c'est la disparition aussi de tous ces tiers-lieux qu'on appelle, c'est-à-dire les maisons de jeunes. Moi, à l'époque, il y avait les aumôneries aussi pour les gens qui les fréquentaient, mais qui ont été des lieux dans lesquels on a énormément, moi j'ai pu, adolescente, par exemple, beaucoup parler dans ces lieux, affectivité, sexualité, être accompagnée, parce que c'est vrai que les parents, on peut faire des choses, mais il y a des terrains sur lesquels on n'est pas non plus, c'est pas à ses parents qu'on a envie forcément de se confier sur certaines choses. Et je crois que le tiers lieu maintenant, c'est devenu les réseaux sociaux, ce qui n'est pas forcément que sécurisant pour eux, quoi.
Joël Mignot.
Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même des grandes organisations qui s'intéressent à la sexualité. Je pense à l'UNESCO, qui a quand même fait tout un programme d'éducation complète à la sexualité, incluant l'amour. Et ça, c'est assez récent, en fait. Effectivement, la médicalisation de l'éducation à la sexualité, on l'a bien connue, et c'est aussi une défense, hein, finalement, parce que si on médicalise trop, ça veut dire qu'on veut pas parler du reste. Donc, on a progressivement intégré, et il y a quand même cette éducation complète à la sexualité qui est proposée, qui malheureusement n'est pas encore tout à fait dans l'éducation nationale mise en place, mais on espère pouvoir le faire justement avec nos actions d'engagement.
Allez, je vous propose d'écouter Axel qui avait 19 ans en 2019, c'était au cours de la série documentaire préliminaire diffusée sur Arte.
J'avais dit à plein de gens que je l'avais déjà fait, j'avais créé un bon groupe d'amis et tout, et c'était la classe à l'époque, tu vois, de dire ah ouais, je me suis tapé plein de meufs. Et même au final, la première fille que je me suis tapé, du coup, je lui avais dit que je l'avais déjà fait, et c'est quelque chose qui lui plaisait. Elle me voyait en mode ouais, tu vois, le mec c'est de quoi il parle, c'est ce qu'il fait, du coup tu gagnes des points facilement. Et je pense que si je lui avais dit ouais que je savais pas du tout ce que c'était, que machin, au final ça serait pas passé. Et du coup ouais, ma première fois elle a dû être grave déçue, parce que du coup, je savais pas du tout ce qu'il fallait faire. J'étais perdu. Je me souviens, c'était derrière, en plus, c'était en mode grunge, tu vois, genre, derrière un vieux stade de campagne et tout. Il y avait des gens qui jouaient au tennis juste en face. On s'était mis derrière une butte, tu vois. Et du coup, ouais, je me souviens de ce moment où ça y est, genre, on fallait le faire. C'était bon, tu vois. Je savais pas quoi faire. Je savais pas du tout quoi faire.
Axel dans la série préliminaire de Julie Talon diffusée sur Arte. Alors c'est vrai, Olivia Benhamou, quand on débute sa vie sexuelle, on peut avoir tendance à enjoliver la réalité, à mentir un peu, beaucoup, passionnément. Et il est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'étaler ces moments de gêne, de doute, de honte ou de déception.
Tout à fait. Et effectivement, les étudiants que je rencontre rapportent beaucoup les discours qui sont tenus dans leur groupe de pairs au sujet de la sexualité. Et donc chez les garçons, il y a quand même beaucoup de discours du type performance, enfin, ce qu'on vient d'entendre, qui est très drôle et qui est très vivant et très juste. Chez les filles, c'est plus compliqué. Ce sont des sujets qui s'abordent moins facilement, déjà parce que je pense qu'il y a plus de pudeur et que c'est aussi lié à l'éducation. Et je voudrais ajouter aussi, pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport au rôle des parents, effectivement, je pense que tous les parents ne sont pas à l'aise, mais il y a aussi des familles dans lesquelles la sexualité est interdite et considérée comme quelque chose de sale, ou de, en tout cas interdit avant le mariage, avec aussi des interdits sur certaines pratiques. Et ça laisse beaucoup de traces, en fait. Et le chemin qu'il faut pouvoir faire pour s'autoriser soi-même à accéder à un certain type de pratique, parce qu'on ressent dans son corps des envies, des besoins, alors que on a été élevé dans une certaine culture et avec un discours, ça prend du temps, en fait, de s'émanciper de ça. Donc il y a effectivement à la fois le poids de la vie sociale, des idées qu'on se fait des attentes des autres et tout ce cheminement qu'on doit faire pour s'émanciper des cultures familiales qui pour certaines sont très utiles et structurantes, mais d'autres qui peuvent être perturbantes. Et enfin, dans certaines familles, il y a aussi un manque d'intimité. Parfois, les jeunes sont exposés beaucoup trop tôt à de la sexualité, y compris de leurs parents, même si les parents ne s'en rendent pas forcément compte, mais ils peuvent avoir des attitudes qui mettent mal à l'aise, en fait. Et tout ce moment où on grandit, on devient pubère, où finalement la différence des générations est moins perceptible, ça peut créer de la confusion, et tout ça impacte la manière dont on va entrer dans sa propre vie sexuelle.
Joëlle Mignot.
Oui, on a entendu la fille que je me suis tapée. Alors, c'est vrai que c'est déjà un stéréotype.
Oui.
C'est quand même un stéréotype sexiste. Enfin, je veux dire, c'est posséder l'autre. Ça aurait été un garçon, c'était pareil d'ailleurs. Hein. Je crois que les mots sont très importants et on a aussi dans cette éducation à la sexualité à travailler aussi sur ces sujets, des expressions qui sont utilisées et qui sont quand même très parlants à la fois et en même temps très problématiques.
David Groison.
Moi, ce qui me marque, c'est aussi effectivement d'être coincé comme ça dans la performance. Et si on est dans la performance, évidemment, on va être déçu parce qu'on ne va pas se mentir. La première fois, c'est d'un point de vue performatif, c'est pas génial.
Parlez pour vous.
On en reparlera après, Ali. Mais du coup, l'idée que on n'est pas en ayant du plaisir, ça se construit, ça s'apprend, que ça se construit à deux, etc. Bah évidemment, c'est si on réduit ça à je vais être performant la première fois et pas on va rigoler, on va vivre un moment fragile de complicité, etc. qui va nous permettre de construire quelque chose. Et bah évidemment, ça va être décevant cette première fois.
Alors, les angoisses de performance peuvent être source de troubles sexuels. Comment se défaire de ces angoisses de performance, Olivia Benhamou? Il faut peut-être remplacer le « il faut » par « je veux ».
Exactement. C'est vraiment...
Expliquez-nous.
En fait, quand on commence sa vie sexuelle en ayant dans la tête un script qui comporte la pénétration, la fellation, le cunnilingus, la sodomie, que sais-je, un script total... quand même largement inspiré de ce qu'on voit dans la pornographie, on passe complètement à côté de ce qu'on a envie de faire. Et le nombre de jeunes que je rencontre et qui me disent quand je leur demande comment s'est passé leur premier rapport sexuel, j'ai vu que ça lui faisait plaisir, donc j'ai fait ça, mais est-ce que vous en aviez envie? Je sais pas trop, en même temps il m'a pas forcé, donc ça nous amène à la question du consentement et de la zone grise entre le oui et le non. En fait, tout ça est extrêmement confus parce qu'il y a effectivement la part émotionnelle, il y a le manque de confiance en soi, l'envie de s'attacher à un partenaire et que la relation dure, la peur de l'abandon, l'idée que si je lui donne pas à une fille ou à un garçon, c'est pas forcément, c'est valable dans les deux sens, ce qu'il attend de moi, eh bien, il va me quitter. Et ça, ce sont des auto-injonctions qui sont vraiment destructrices. Donc, pour s'émanciper de ça, moi, ce que je leur explique, c'est que dans les films porno, par exemple, on voit jamais une capote qu'on a du mal à enfiler, de la maladresse, on tombe du lit, on peut se mettre un doigt dans l'œil à un moment où on s'y attend pas du tout. Enfin, tout ça, c'est des choses qui existent dans la réalité. Et en fait, ce qu'on voit dans la pornographie, c'est extrêmement stéréotypé. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... tout est factice, en réalité.
Joëlle Mignot.
Oui, c'est très important. Effectivement, la pornographie, de leur expliquer comment ça marche, parce que c'est du cinéma. Ça se construit comme un film. Donc, c'est des petites séquences. Voilà. Et c'est important de leur dire ça, parce qu'ils ont l'impression que c'est une espèce de fil qui dure une heure avec une sexualité qui n'arrête jamais. Enfin, voilà. Donc, je crois que c'est important de dire que c'est du cinéma.
Dans un instant, vous verrez quelles sont les choses à savoir avant la première fois. En attendant, on écoute Lizzo qui interprète Juice à 10h26.
I'm not the baddest bitch you like. It ain't my fault that I'm out here. don't even gotta try. I like shouting, nigga, better over time. Heard you say I'm not the baddest bitch you lie.
Lizzo interprétée Joyce.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Et on s'intéresse ce matin à l'entrée dans la vie sexuelle. Toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter.
Alors, ma première fois, c'était avec un garçon dont j'étais très 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 amoureuse.
C'était pas du gâteau la première fois. Elle aussi, c'était la première fois qu'elle faisait l'amour. Et ça a été mal fait. Mais c'est peut-être là que j'en garde le meilleur souvenir.
C'est très très bien passé. Donc, petite musique, et puis voilà, c'était très sympa.
Et tu vois, je me souviens même pas si on en a parlé avant, enfin tu vois, si on s'est dit, viens, vas-y, viens, le 8, on fait l'amour, machin. Enfin tu vois, je pense même pas qu'on en ait parlé. Je crois qu'on a commencé genre à midi, à 13h, un truc comme ça, enfin c'était, voilà, c'était la début d'après-midi, et ça a dû durer jusqu'à 16h, et c'était vachement bien.
Est-ce que j'étais plus contente de pouvoir le dire à mes copines sans leur mentir parce que je l'ai fait, ou est-ce que j'étais plus contente de l'avoir fait tout court?
La sexualité, c'est un peu le bac de la vie sociale. C'est-à-dire qu'on vous dit que si vous n'avez pas votre bac, vous n'irez pas loin professionnellement. Et bien la sexualité, c'est pareil. Vous commencez par embrasser, après vous avez les prélits, après éventuellement vous montez de plus en plus.
Le jour J, ça va être bien si c'est réciproque, quoi. Ouais. Ayez envie tous les deux. Ayez vraiment envie tous les deux. C'est pas tes potes qui ont envie que tu le fasses, tu vois, c'est toi qui as envie que tu le fasses. Waouh, quoi.
Montage signé Claire Destacor. Alors, au fond, pourquoi ces premières expériences sexuelles sont si importantes? Elles ont un impact sur la suite de la vie érotico-sentimentale. Joëlle Mignot, je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne et sexologue.
Évidemment, c'est une expérience unique, la première fois. Alors, on s'en souvient ou on s'en souvient pas parfois. Il y a des personnes qui ont gommé cette première fois, ça arrive aussi. Mais c'est une expérience unique sur tous les plans, sur le plan du corps, sur le plan global de la personnalité, sur le plan des émotions, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est aussi sur le plan du ressenti, sur le plan de la relation à l'autre qui va évoluer au fil du temps, etc. Donc, c'est un ensemble d'expériences uniques. Donc c'est pour ça aussi que c'est très important. Ça impacte la sexualité future, suivant effectivement la façon dont ça s'est passé et quelles traces ça va laisser. Ça va laisser des traces positives, comme on a entendu cette jeune femme qui disait c'était génial et voilà. Ça peut aussi laisser des traces traumatiques, on le sait, puisque la question du consentement et de l'accord, moi j'aime beaucoup ce mot-là, plutôt accord, parce que c'est vrai qu'être dans l'accord avec l'autre, c'est encore un peu différent du consentement.
Olivia Benamou, psychologue clinicienne et sexologue.
Oui, alors ce qu'on note, enfin dans mon cabinet quotidiennement, je reçois des patients donc de tous âges, de 40, 50, 60 ans, qui viennent pour des plaintes sexuelles, troubles de l'érection, vaginisme, douleurs diverses, éjaculation prématurée, et évidemment on investigue ensemble un petit peu leur histoire sexuelle et on retrouve quasiment 99,9% des cas, un vécu de leur première expérience sexuelle ou de leurs premières expériences sexuelles, on va dire, des souvenirs plus ou moins traumatiques, avec des expériences qui les ont amenés à se remettre en question, à se vivre comme, enfin, à se sentir en tout cas mis en difficulté pour une raison ou pour une autre, soit par le regard porté par leur partenaire à ce moment-là, soit par le regard qu'ils portaient eux-mêmes sur ce qui se passait, soit le contexte. Tout à l'heure, dans le témoignage précédent, il disait que ça avait été grunge la première fois derrière un stade. Et effectivement, ça a l'air de rien, mais quand on vit sa première expérience sexuelle dans un endroit où on n'a aucune intimité, où on peut être dérangé, on peut être interrompu brutalement, on peut être découvert, etc. Tout ça, enfin, le climat en fait émotionnel et affectif de ce moment-là va teinter cette première fois de manière positive ou négative, et souvent il y a une forme d'intériorisation de la manière dont a été vécu ce premier rapport sexuel, avec l'idée que puisque ça s'est mal passé cette fois-ci, eh bien ça se passera mal à chaque fois, avec ensuite une anticipation anxieuse, et c'est extrêmement fréquent, notamment pour des troubles sexuels bien connus chez les sexologues, vraiment d'origine psychogène, une fois qu'on a éliminé toutes les causes médicales, bien évidemment, mais qui sont associés à de l'anxiété. Et le premier organe érogène de notre corps, c'est notre cerveau. Donc si on associe la sexualité avec l'anxiété, eh bien ça va hypothéquer notre façon de vivre pleinement notre sexualité et de nous autoriser à éprouver des désirs. Donc ça génère de l'inhibition, ça génère vraiment du manque de confiance en soi, une baisse d'estime de soi, et voilà. Et c'est dommage, parce qu'on peut, et c'est pour ça que je trouve que c'est très important de parler de sexualité dès cette période de la vie, et notamment auprès des étudiants, enfin moi ça me tient particulièrement à cœur, parce que je pense que c'est vraiment de la prévention de troubles sexuels secondaires, de pouvoir déconstruire des idées qui se font, et c'est pas parce qu'on a mal vécu son premier rapport sexuel pour différentes raisons que de fait toute notre vie sexuelle sera ratée. En fait, tout à l'heure quelqu'un disait c'était mal fait, c'est trop mignon de dire ça comme ça, mais en fait mal fait par rapport à quoi, par rapport à, vous voyez, donc, et le fait d'avoir un espace pour parler de ça, c'est pour ça que la question de l'éducation sexuelle c'est quand même délicat, parce que parler en groupe de tout ça c'est compliqué, et les espaces individuels, ils sont trop rares, je trouve, et l'idée, enfin moi je milite pour qu'on crée des consultations de sexologues dans tous les lieux où gravitent les jeunes adultes, pour qu'ils puissent avoir des lieux pour aborder ces questions-là.
Joël Mignot.
Oui, ce qui semble aussi important, c'est le rapport au corps. On s'aperçoit par exemple dans les troubles de l'érection que souvent ils ont une base, une origine très liée à la première relation sexuelle. Et donc on voit bien que cette attente de la réponse, qui est une réponse finalement involontaire, parce que il suffit pas de se dire je veux avoir une érection pour en avoir une, on le sait très bien, c'est pas du côté de la volonté. Donc effectivement, si ça se passe mal une première fois, ça peut tout à fait, pour la suite de la vie sexuelle, avoir des conséquences importantes pour les hommes. C'est vrai aussi pour la quête de l'orgasme, avec d'autres éléments dont on pourra parler chez les femmes.
David Groison, rédacteur en chef de Phosphore.
Oui, dans les témoignages, il y avait une jeune fille qui disait l'important c'est d'en avoir envie, et c'est vrai, mais avoir envie, dire oui, c'est pas dire oui à tout, et c'est pas dire oui jusqu'au bout. Et je pense que sur ces premières fois, ce qu'il faut dire aux jeunes aussi, c'est ça, c'est-à-dire qu'à tout moment, si finalement derrière le stade ça te plaît pas, bah t'as le droit de dire bah c'est pas ce moment-là, et c'est pas à cet endroit-là. Si finalement les gestes t'effraient ou te font plus envie, bah t'as le droit de le dire aussi, c'est pas parce que vous êtes nu que du coup vous êtes obligé de continuer, parce qu'il y a un engagement qui aurait déjà commencé et qui vous emmène jusqu'au bout. Et dans les traumatismes, me semble-t-il, il y a beaucoup ça dans ce qu'on reçoit nous à Phosphore.
Gonelle Boulet.
Oui, et ce que je trouve plus profondément derrière de l'éducation plus générale, c'est à un moment donné, être convaincu qu'on peut être aimé pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on fait. Et ça, je trouve, du point de vue des parents, il y a quelque chose de très fort qui se joue avec la scolarité, qui se joue avec plein de choses, plein de domaines qui ne sont pas sexuels, mais qui vont pouvoir fonder la sexualité. C'est-à-dire que si on est convaincu, au fond de soi, qu'on peut être aimé pour ce qu'on est, beaucoup de libertés vont pouvoir s'offrir à soi. C'est-à-dire, si on n'a pas peur à chaque fois de dire, bah non, ce truc-là, j'en ai pas envie, et sans avoir peur d'être largué derrière, bah c'est ça qui ouvre tous les champs des possibles. Parce que sinon, on est enfermé dans ce qu'on est censé faire et prouver à l'autre.
C'est pourquoi l'éducation à la sexualité doit être liée absolument aux droits humains. Et dans les droits humains, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les valeurs. Il y a les valeurs de respect, les valeurs d'autonomie, les valeurs de sécurité aussi. Et ça, on l'a bien vu au moment du sida, d'ailleurs. Hein, c'est, et des IST, bien sûr. Tout ça doit passer à travers l'éducation à la sexualité. Et pas seulement éduquer sur des éléments de pratique ou des éléments scientifiques, mais aussi sur les droits humains que chacun doit aussi intégrer à sa propre vie. Et ça, c'est très important.
Et nous accueillons Anne. Bienvenue, Anne.
Oui, bonjour.
Bonjour. Quel est votre témoignage ou votre question ?
Eh bien, écoutez, c'était pour apporter un témoignage parce que vous avez parlé du fait d'aborder la sexualité avec les élèves à l'éducation nationale. Il y a un intervenant qui a dit que c'était très peu fait ou seulement sous l'angle des risques. Or, moi, je suis professeure en collège dans les Hauts-de-France et j'ai participé, comme un certain nombre de mes collègues, pas forcément professeurs d'ailleurs, adultes, assistantes sociales, infirmières, CPE, à un programme académique sur la vie sexuelle et affective qui existe dans les Hauts-de-France, qui a été fait pour mettre en application la recommandation des programmes, d'aborder effectivement la sexualité et la vie affective avec les élèves à tous les niveaux de la scolarité. Donc lors de cette formation avec les collègues, nous avons eu plusieurs journées de stage, animées par des sexologues, des infirmières, des assistantes sociales, sur tous les aspects de la sexualité, de la vie affective, qui nous a amené aussi à nous poser nous-mêmes des questions sur notre rapport à la sexualité, pour pouvoir ensuite en parler avec des adolescents. Et on a ensuite, dans nos établissements respectifs, animer des groupes de parole avec les élèves en partant de leurs questions. Donc c'est des élèves de 4e parce que c'est au programme de leur en SVT la reproduction humaine à ce moment-là. On leur demande de poser des questions ou pas, hein, d'ailleurs il n'y a aucune obligation. Toutes les questions qui se posent sur la sexualité et la vie affective, c'est anonyme. Le jour de l'animation, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, on ouvre les papiers, on les lit avec eux, et puis on essaye de répondre à leurs questions, en leur apportant des éclairages éventuellement, mais en partant surtout d'eux. Et c'est vrai que tous les thèmes dont vous avez parlé, la première fois, la peur de pas être performant, notamment pour les garçons, peut-être la plus grande importance de la vie affective pour les filles. Enfin, en tout cas, tout ça, on l'aborde. On parle de la pornographie, on parle de tout, et c'est pas que sous l'angle des risques, hein, vraiment. Donc, je pense que ça leur apporte, ça dédramatise. Ça leur permet d'être réconfortés, d'être rassurés, de voir que leur problématique, c'est aussi celle de leurs camarades. Des fois, il y en a qui parlent pas du tout, mais on sent qu'ils écoutent fortement, parce que dans le milieu familial, c'est pas forcément évident qu'ils puissent en parler. Donc je pense que c'est intéressant. Alors ça n'existe peut-être pas partout, mais il y a des choses qui se font dans l'éducation nationale et qui marchent.
Joël Mignot.
Oui, bien sûr, il y a tout un travail qui se fait sur tout le territoire, hein, bien sûr. Et nous formons d'ailleurs dans nos diplômes beaucoup d'intervenants au niveau de l'éducation à la sexualité, à tous les niveaux. Et Dieu merci, eh bien, les choses évoluent. Mais il y a encore du travail, et surtout, je crois, au niveau de la déconstruction de nos propres représentations. Parce qu'on est toujours quand même pris par les stéréotypes, etc. On voit bien, même quand un petit bébé fille naît, on lui offre des petites robes roses. On voit bien que c'est encore ça qui se joue. Donc on a aussi à changer toutes nos mentalités.
Olivia Benhamou.
Moi, je rebondis sur ce qu'a dit madame, l'auditrice. Elle a dit que elle avait fait un travail sur elle-même avec ses collègues professionnels sur sa propre sexualité pour pouvoir parler de sexualité. Ça, je pense que c'est très important. On n'en parle jamais. Mais, d'abord, je pense qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir parler de sexualité simplement et facilement. Moi-même, avant de faire ma formation en sexo, j'étais pas du tout à l'aise, pour parler de ça avec mes patients, hein. C'est vraiment, voilà. Et je considère que il faut pouvoir le faire et il faut avoir envie de le faire aussi. Enfin, c'est ce qu'on disait sur la sexualité s'applique aussi à notre capacité à parler de sexualité. Donc, il faut que les adultes qui veulent se charger de ce travail-là auprès des jeunes aient envie de le faire et soient eux-mêmes au fait, bien au clair, avec leur propre sexualité.
Merci beaucoup, Anne, de nous avoir appelé. Alors, quand on n'a pas vraiment envie de parler de sexualité en classe, avec ses parents, on peut appeler le Fil Santé Jeune, anonyme et gratuit. C'est le 0800 235 235. 236, 0800 235 236. Ça fonctionne 7 jours sur 7, de 9h à 23h. Et nous accueillons Muriel Courteau-Magal. Vous dirigez le Fil Santé Jeune. Bonjour.
Bonjour.
Expliquez-nous sa mission, le Fil Santé Jeune qui est destiné aux 12-25 ans.
C'est ça. Alors Fil Santé Jeune, bon, vous l'avez dit, c'est un numéro gratuit, anonyme. Il fonctionne avec des écoutants rédacteurs formés, souvent psychologues cliniciens, mais aussi médecins, travailleurs sociaux, voilà. Donc tous les jours, hein, de 9h à 23h, et nous avons par exemple plus de 25 000 échanges avec tous les jeunes sur tout le territoire national. Et puis ce qu'on a un peu repéré, le thème de la sexualité, de l'amour, des premières rencontres, ça reste majeur pour les jeunes, plus de 50% hein, de ces appels, que ce soit des appels téléphoniques, chat, forum, échanges, mails, ça reste majeur.
Et quelles sont les questions les plus fréquentes sur le Fil Santé Jeune, Muriel Courteau-Magal?
Alors c'est un peu comme ce que j'ai pu entendre tout à l'heure, on a à peu près trois grands thèmes, si je peux le dire comme ça. Pour les plus jeunes, c'est plutôt se connaître son corps sur ses sujets intimes, son propre corps. Ensuite, c'est plutôt sur la phase des 16 ans ados, c'est plutôt la découverte du corps de l'autre, les premières sensations, jusqu'à quelquefois des pratiques sexuelles, alors autour des fellations, etc., des questions. Et puis après, jeunes adultes, c'est plus là la relation sexuelle en tant que telle, avec quelques peurs parfois. Et là, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, je l'ai entendu, évidemment, la taille du pénis, panique, panne sexuelle, avec des enjeux assez forts. Et là, on est quand même sur des tranches d'âge plus âgées, hein, 18, à partir de 18-20 ans.
Le Fil Santé Jeune, anonyme et gratuit, c'est donc le 0800 235 236. Merci beaucoup, hein, Muriel Courteau-Magal. Il est 10h44, eh bien ouais, il est déjà l'heure de retrouver la chronique Ma vie de parent de Gonelle Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous, hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut!
Merde!
Alors ce matin, Gonelle Boulay, vous avez bien sûr décidé de rebondir hein, sur ce thème de la sexualité des adolescents.
Hein, oh hein? La sexualité des quoi? Ah non, ne me dites pas, non mais attendez. Il n'y a pas encore si longtemps, j'étais en train de parler de diversification alimentaire, apprentissage de la table des sept. Ma fille voulait encore se marier avec son papa et son fils avec moi. Bref, tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Et là, comme ça, il faut que je me projette d'un coup dans les histoires d'amour et de sexualité de mes enfants. Attendez, je respire, je ventile, laissez-moi un peu de temps là.
Il me semble que vous n'êtes pas tout à fait prête hein, à plonger dans le grand bain.
Hein. Ah, c'est moins qu'on puisse dire. Mais alors, entre nous, quels parents est vraiment préparé à ça. D'un point de vue théorique, bien sûr, on sait qu'un jour ça arrivera et que c'est plutôt bien pour eux. Hein. Mais tout comme nos enfants n'ont pas hyper envie de savoir ce qui se passe derrière la porte de la chambre à coucher parentale, et c'est plutôt sain, nous non plus, en tant que parents, n'avons pas non plus hyper envie de voir en face que notre petit bonhomme ou notre petite nénette a grandi d'un coup comme ça, au point d'entamer sa vie sexuelle.
Et pourtant, force est de constater eh bien, qu'il faut bien s'en préoccuper. Hein.
Et oui Ali, merci de me rappeler à mes devoirs parentaux élémentaires. En effet, tout comme vous ne laisseriez pas votre enfant partir seul dans la rue sans les avoir briefés sur les quelques règles de sécurité routière, il est de notre devoir de parents de préparer un peu le terrain de la vie affective et sexuelle avec nos enfants. Et globalement, comme la valise de vacances, si on peut éviter de faire ça paniquer au dernier moment, c'est mieux.
Alors comment s'y prendre?
Eh bien, on peut déjà se dire que la sexualité est comme une maison construite sur des fondations. L'estime de soi, l'image qu'on a de sa capacité à être aimable et aimé pour ce qu'on est, la liberté qu'on s'offre de dire oui ou non, de se tromper, le rapport que l'on entretient au regard, au jugement des autres, savoir juger ce qui nous rend heureux ou malheureux, les voilà les véritables fondations. Et tout ça, ce sont des choses qui se vivent déjà bien avant l'adolescence, dans les relations amicales par exemple, sur lesquelles on est peut-être parfois plus à l'aise de parler. Alors si bien sûr il appartient à notre rôle de parents de prévenir sur les moyens de contraception, les maladies sexuellement transmissibles ou la vigilance à avoir autour des réseaux sociaux, des modèles pornographiques imposés à nos ados, je pense que notre rôle fondamental réside avant tout dans la construction de ces fondements.
Alors le problème c'est que les adolescents ne sont pas forcément matures pour tout ça.
Non, et d'ailleurs, tout ceci se construit pas d'un coup de baguette magique, mais petit à petit. Ça passe par le délicat apprentissage du consentement dans un monde où on apprend surtout aux enfants à obéir. Quand puis-je dire non parce que ça me convient pas? Quelles sont les limites que j'apprends à poser aux gens qui m'entourent? Cela passe aussi énormément par l'intégration intime de ce qui fait de moi un être unique et aimable. Apprendre aussi très jeune, surtout à l'ère des réseaux sociaux, que je ne peux pas plaire à tout le monde et que c'est pas grave.
Donc mieux vaut ne pas agir sous le coup des réflexes ou de la peur.
Oui, il y a quelques mois, par exemple, moi, j'ai regardé le très beau documentaire préliminaire dont on a parlé tout à l'heure. J'encourage vraiment tous les parents à le regarder ou à le proposer à leurs ados. Sur le coup, en entendant tous ces jeunes qui s'est sentis obligés de faire telle ou telle chose pour appartenir à ce qu'ils pensaient être la normalité, à entendre que la fellation était le premier prélit qu'on faisait au collège ou au lycée, j'avoue que mon petit cœur de parent saignait un peu et que mon réflexe numéro un était de sortir l'artillerie lourde et « attention !» Et puis, la trouille passée, je me suis dit qu'en fait, la seule voie qu'on pouvait prendre en tant que parents, c'était celle de la confiance. Prévenir, bien sûr, dialoguer sans violer leur intimité, offrir une oreille attentive en cas de besoin, tout ça, oui. Mais aussi ne pas leur présenter la sexualité comme un chapelet d'interdits et de dangers, mais comme ce qu'elle est, à savoir quand même la promesse de belles relations, intenses et partagées. Après tout, nos enfants ne se sont pas mis à marcher d'un coup, ils trouveront bien aussi leur voie dans ce domaine-là. Et chaque génération a toujours été troublée par la sexualité de la suivante. Mais chacun a aussi trouvé son chemin. Alors, tel un bon slogan électoral de 2022, parce que c'est quand même le moment, je dirais bien, sexualité des ados, ensemble, choisissons la confiance.
La chronique Ma vie de parent a podcasté et a partagé sur l'appli France Inter et approuvée par nos deux psychologues cliniciennes et sexologues. Dans un instant, on s'intéresse à la place de l'amour hein, lors des premières fois. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Et on écoute Chien Noir qui interprète Lumière Bleue à 10h48.
C'est juste une seule fois. C'est juste une nuit comme ça. C'est juste ton corps que je soulève. De l'or au coin des lèvres. C'est juste que j'y pense encore un peu. À nos ombres dans la lumière bleue. C'est juste ta peau contre la mienne. Des mots qui me reviennent. Où je te vois loin la bouche. C'est juste nos lèvres qui se touchent. C'est juste que je cherche encore tes yeux. Je cherche encore tes yeux.
Noir interprété Lumière Bleue.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
Et on s'intéresse ce matin à l'entrée dans la vie sexuelle. Alors au moment de l'entrée dans cette vie sexuelle, quelles sont les choses à absolument savoir ? Olivia Benhamou, vous publiez un petit guide d'entrée dans la vie sexuelle très bien fait.
Merci. Ce qu'il faut savoir, c'est surtout c'est s'écouter et choisir la bonne personne, j'irais, parce que effectivement, c'est une question de feeling, de confiance, d'être avec quelqu'un avec qui on se sent libre de parler, de rire, d'échanger. L'humour peut être un allié très utile lors de la première fois, parce que si en plus on est deux partenaires sans expérience, ben qu'on sait pas du tout comment s'y prendre, par quoi commencer, etc. Ben voilà, on a le droit de rire ensemble et de dédramatiser quand même ce moment. Mais ce qui est charmant d'ailleurs de pouvoir se trouver comme ça un petit peu timide et mal à l'aise. Après, sur le plan très pratique, je pense que c'est important de choisir un lieu et un moment où on est bien, c'est-à-dire éviter d'être complètement sous, par exemple, ou l'arrière d'une voiture, ou vous voyez tout ce genre de situations qu'on entend très régulièrement et qui peuvent ensuite faire regretter de ne pas avoir été en pleine possession de ses moyens.
Allez, je vous propose d'écouter Basile, 19 ans, en 2019, dans la série documentaire préliminaire de Julie Talon.
Il y a un énorme paradoxe pour moi, c'est qu'on va parler de libération, de liberté, sauf qu'en fait, elle se fait que pour les hétéros. C'est une fausse liberté, parce qu'en fait, t'as le droit de te découvrir en tant qu'hétéro, t'as le droit de tester. Moi, en tant que garçon, j'aurais le droit de tester avec des filles, mais le reste, c'était inimaginable. Et ce qui est horrible pour moi, c'est que bah, à l'âge où, disons, 10, 11 ans, pour beaucoup de gens, 11, 12 ans, tu commences à avoir des papillons dans le ventre, à te découvrir. Enfin, c'est là aussi, culturellement, c'est présenté comme un moment très beau, très intense, très émouvant, un peu qui fait peur aussi. Moi, je me suis pas du tout. Enfin, moi, ce qui a commencé à apparaître dans mon ventre, c'était pas des papillons, c'était un monstre. Enfin, quand j'ai senti vraiment que c'était les garçons qui me faisaient battre le cœur, ça a été horrible. Enfin, en sixième, moi, mon historique, c'était comment guérir de l'homosexualité, des thérapies sur YouTube pour devenir hétéro, genre une heure d'exercice par jour et tout. C'était vraiment pas dans le plaisir qu'on se découvre, nous. Les prélis, c'est le jeu des hétéros.
Alors, quelle est la spécificité de l'entrée dans la vie sexuelle quand on se découvre gay, bi ou lesbienne, Joëlle Mignot?
Alors là, Basile pointe quelque chose de très important. C'est effectivement l'entourage familial, tous les messages qui lui ont été transmis de façon consciente ou inconsciente autour de l'homosexualité et qui ont ressurgi au moment où sa pulsion et son désir et son excitation s'est tournée vers les garçons. Et là, effectivement, bah, c'est la base de son éducation qui a ressurgi. Et on voit bien que pour même des jeunes adultes ou même des adultes plus âgés, la question du coming out, c'est-à-dire de comment je vais dire à ma famille que je suis homosexuel, ça peut être encore un vrai problème. Pas pour tous. Alors, on sait très bien aussi que dans certaines familles, ça se passe très bien, mais ça pose vraiment la question du social, finalement.
Olivia Benhamou.
Oui, parce que dit Basile, c'est quelque chose qu'on entend très très couramment en consultation. Et en effet, je pense que, puisque nous vivons quand même dans une société où la norme, c'est l'hétérosexualité, eh bien, l'entrée dans la vie sexuelle homosexuelle, elle nécessite un processus peut-être plus long. Premièrement, déjà, se rendre compte et reconnaître pour soi-même qu'on est plutôt attiré par des partenaires de même sexe. Deuxièmement, s'autoriser à passer à l'acte et ensuite le dire aux autres. Le fameux coming out qui est toujours une source de grande terreur.
David Groison de Phosphore.
Oui, puis notre responsabilité en tant qu'éditeur, c'est aussi quand on fait un numéro comme Phosphore le mois dernier, spécial amour, c'est
très bien.
Il y a des témoignages de jeunes qui se déclarent leur amour, aussi de garçon à garçon, ou une jeune fille qui dit le temps qu'elle a pris pour accepter son désir pour d'autres jeunes filles.
Bon, et l'amour dans tout ça, faut-il forcément être amoureux lors de sa première expérience sexuelle, Joëlle Mignot?
C'est une grande question.
Hein, il nous reste 3 minutes.
Oui. Alors, moi, je poserais plutôt la question sur le plan du plaisir, parce que finalement, on parle d'amour comme si on devait sacraliser la relation sexuelle, la première relation, etc. Mais il y a aussi tout ce qui se passe dans notre ressenti de plaisir, d'excitation, qui parfois n'est pas forcément lié au sentiment, mais ça peut être un sentiment de confiance. On peut être avec quelqu'un dans la confiance sans forcément être dans le grand amour. D'abord, c'est tout de suite si on est dans le grand amour, c'est quand même une vraie question. Donc je pense que on a quand même eu toute l'évolution des années 70 qui nous a aussi permis quand même de séparer un peu les choses, et je pense que ça, il faut quand même le garder, notre liberté aussi pour nous les femmes d'avoir pu séparer la procréation et la sexualité, c'est très très important aussi dans la question de la séparation entre l'amour et la sexualité. En même temps, on pourrait dire quand même que avoir une relation sexuelle avec des sentiments, c'est pas mal.
Je cite le sociologue Jean-Claude Kaufmann. Alors qu'autrefois l'amour menait au sexe, nous assistons à un véritable retournement historique. Désormais, c'est le sexe qui peut mener à l'amour.
Effectivement, je pense qu'à l'ère des sex friends,
c'est les amis sexuels, c'est ça.
C'est ça, les potes de baise, fucking buddy aussi. On dit. Hein, donc ça veut dire que, en fait, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans ces relations-là. On peut très bien avoir l'idée qu'on va vivre juste un moment sympathique de rapprochement érotique et sexuel. Mais on peut aussi tomber amoureux de son sex friend, et ça c'est quelque chose à quoi on n'est pas toujours prêt. Et je mentionne dans le petit guide l'existence de cette étude qui explique que quand on a un orgasme en fait avec un partenaire et qu'on a beaucoup beaucoup de plaisir, et bien ça déchaîne sur le plan hormonal un afflux d'ocytocine, et on peut
l'hormone de l'attachement,
et on peut tomber raide dingue d'un partenaire qui nous a donné beaucoup de plaisir. Donc voilà, on peut pas tout prévoir en fait.
Joëlle Mignot.
Oui, la sexualité c'est un processus initiatique. Alors c'est un bien grand mot, mais en même temps c'est quand même aussi tout au long de la vie tout ce qu'on acquiert qui va faire que voilà, on va vivre sa sexualité de façon aussi différente à l'adolescence et puis après bien plus tard. Donc voilà, ce processus il est très porteur pour la vie en général.
David Groison.
Ouais, je souscris, c'est-à-dire la première fois c'est pas un but en soi, c'est vraiment le début. Et si on arrive à transmettre ça aux jeunes, c'est formidable, parce que c'est le début avec tout son lot de fragilité, de découverte, de plaisir à venir. Il faut le vivre comme un départ plus qu'une fin.
Oui, on pourrait dire que la sexualité, c'est avant tout un jeu, donc comme tous les jeux qui comportent des règles, mais qui doit pouvoir se vivre pleinement sans enjeu. S'il y a un enjeu à la sexualité, ça devient source de problèmes, d'anxiété, de souffrance, de doute. Voilà, donc essayez de vivre ça légèrement.
Le mot de la fin, Gwenaëlle Boulay ?
Ah, non, mais je réfléchissais, je me disais, le mot qui me vient, c'est aussi mystère. C'est-à-dire que on peut quand même s'offrir l'idée qu'il y a des choses mystérieuses dans la vie, pleines de surprises, que l'intérêt de tout ça, c'est de se laisser surprendre avec ce qu'on est. Je trouve que voilà, oui, il y a des règles et en même temps, pas tant que ça. Et voilà, c'est ça qui me vient.
Très beau mot de la fin, Gwenaëlle Boulay. Merci beaucoup, Joëlle Mignot. Je recommande votre revue Sexualité humaine avec un dossier consacré aux sexualités connectées. Merci, Olivia Benamou. Je recommande vraiment ce petit guide d'entrée dans la vie sexuelle publié au Cherche Midi avec de belles illustrations de Cathy Kersanti. Quand on est un parent comme Gwenaëlle Boulay, on peut peut-être poser ce guide sur la table de chevet de son ado. Merci également, David Groison, à la une du dernier numéro de Phosphore.
100% présidentiel, 52 pages pour intéresser les ados à la politique.
Demain, comment manger moins sucré, des astuces pour éloigner le sucre de son assiette.